With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Salut Rokaya.
Salut Grace.
Salut les auditrices.
Vous trouverez la suite de Kif Taras et les nouveaux épisodes à écouter sur votre plateforme habituelle de podcast.
Faites simplement une nouvelle recherche avec le titre Kif Taras chez Pseudo Radio et abonnez-vous à ce fil.
Bien sûr, les quatre premières saisons des épisodes de Kif Taras resteront toujours disponibles chez Binge Audio.
Merci pour votre écoute précieuse
et à bientôt.
Bonjour Rokaya.
Bonjour Grace.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales.
Ici, vous le savez, on parle d'arabe, d'asiatique, de blanc, de rome, de noir, toujours sans complexe.
Aujourd'hui, dans Kif Taras, on avait envie de vous proposer un petit moment tranquille, en famille. On va passer au peigne fin le parcours d'une personnalité que nous estimons inspirante, un ami que nous connaissons toutes les deux depuis longtemps. Et nous avons le plaisir donc de recevoir Raphaël Yem.
Salut les filles.
Salut Raphaël.
Ça a commencé à vanner direct. Non mais au peigne fin, alors vous savez très bien que je suis chauve. J'ai capté le délire de cette émission, très bien. Moi, je suis content d'être là en tout cas.
Oh, merci.
Vraiment, je suis tellement fier déjà de ce que vous faites et de la proposition de podcast que vous avez, Kif Taras. Je suis très honoré d'être avec vous.
Merci, c'est réciproque. On est super heureuse de te recevoir, enfin, depuis le temps qu'on y pense en plus.
Voilà, maintenant, après s'être passé la brosse à reluire, voilà. On va balancer les questions.
Non, bon, voilà. On va parler des vrais dos. Donc Raphaël, t'es journaliste et tu précises sans carte de presse.
C'est vrai.
Tu es animateur, ton CV est plus long que la durée de ce podcast, donc on va abréger.
Straight to the point.
C'est ça, voilà. Pour être brève et donner des éléments à celles et ceux qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas, tu as travaillé dans de nombreux médias populaires en presse, radio et télé tels que Radio Nova, France Culture, MTV, BET. On peut te voir actuellement sur France 3 et sur France O et tu as cofondé le magazine engagé Fumigène.
Exactement. Je suis très fier de ça.
Nous aussi, d'ailleurs.
On va en parler tout à l'heure. Ouais.
D'ailleurs, Fumigène, pour la petite histoire, est un des premiers magazines à avoir parlé de ce que je faisais dans mon activisme.
Ouais,
en 2007.
C'est l'un des premiers portraits que j'ai eu.
Ouais. Aussi
ouais.
Bah, vous voyez, comme
vois,
quoi. Et
comme
maintenant,
quoi.
Je suis dans Kif Taras.
La boucle est bouclée. Alors, dans Kif Taras, Raphaël, on a un petit rituel. Donc, on demande aux personnes si elles se situent sur le plan racial et si oui, comment. Donc, par exemple, Rokaya est une femme noire et moi, je suis une femme asiatique. Et toi, est-ce que tu te définis comme ça?
Bah, moi, je suis un homme asiatique. Sur, même si les gens n'y croient pas, parce que souvent, alors moi je travaille en télé, les gens, tu sais, t'approchent dans la rue parce qu'ils t'ont vu à l'écran, et puis en plus je travaille sur François, quelquefois ils me voient sur cette chaîne dédiée à nos Outre-mer, et ils sont persuadés que je suis antillais, réunionnais, wallisien, polynésien, tahitien, mais rien de tout ça. Moi je suis d'origine cambodgienne, mes parents viennent du Cambodge, ils ont fui le génocide, ce qui allait devenir le génocide des Khmers Rouges, et ils sont arrivés en France, donc mes deux parents sont cambodgiens et c'est vrai que je sais pas s'il y a un physique cambodgien, mais en tout cas quand j'y vais et que je parle le Khmer, les gens ne me croient pas, ne croient pas que j'en suis un. Alors nous on dit Khmer Sot, Sot ça veut dire je suis un vrai cambodgien des deux parents quoi, et personne ne me croit. Et je pense qu'en France quand je dis personne ne me croit aussi.
Bah, tu sais, non mais à ma décharge, moi aussi. Bah pourtant, tu vois, quand je t'ai rencontré pour la première fois, je t'ai demandé, mais tes deux parents sont cambodgiens ? Tu m'as dit oui. Et en fait, j'étais dans un espèce de déni en me disant, mais il est trop cool pour être asiat. Non, mais pour te dire à quel point les clichés que j'avais internalisés m'empêchaient de penser que quand on était asiat, on ne pouvait pas aimer le hip-hop, porter un chapeau.
Être barbu.
Alors, comme vous ne le savez pas, mais peut-être qu'on va vous le décrire, Raphaël a toujours un chapeau.
Ouais, souvent.
Alors là, il est rond.
Là, il est bleu, il va avec mes sapes. Pardon, je suis un petit peu coquet aussi, je suis un peu fashion victim. Je suis assez grand, je suis costaud, certains diraient que je suis gros aussi. Je suis barbu,
Alors, t'as le teint assez mat aussi.
J'ai le teint très mat aussi. Ouais. Et puis en plus, là, je rentre de vacances d'Égypte, donc j'ai pris un peu de soleil. Donc je suis vraiment noir, pour le coup. Pas autant que Rokaya, mais presque, hein, quelques fois. vraiment, quand je passe très très longtemps au soleil. Mais c'est vrai que je te dis, les gens ont du mal à définir mon origine. On peut me dire que je suis sud-américain aussi. Quand je suis dans le Maghreb, on me parle en arabe. Persuadé que je suis moi-même marocain ou tunisien, et comme j'ai de la barbe, on est persuadé aussi que je suis musulman aussi, donc c'est ce qu'on me disait quand j'ai voyagé un petit peu au Qatar par exemple. Donc voilà, c'est assez drôle tout ça. Par contre, quand je suis dans les pays du Nord et que je dis que je suis français, les gens me croient.
Ah, comme quoi ?
Ouais. Finalement. Mais il n'y a que là.
tous les gens de ta famille sont exposés aux mêmes questions, ou tu es le seul dans ta famille à faire
Non. Je crois que je suis un peu le seul, parce qu'en plus, j'ai adopté, tu parlais du hip-hop, des tenues vestimentaires. Enfin, je suis tout le temps en sneakers. J'ai ce chapeau, j'ai un petit lust, quoi, excusez-moi. Donc, du coup, effectivement, je suis le seul dans la famille où on pointe du doigt que j'ai pas l'air d'un Asiatique, quoi.
C'est hyper spécial ton cas, Rafale, je voudrais dire, parce que physiquement, moi, je te trouve pas ambigu. C'est quand tu m'as dit oui, je suis cambodgien, je me suis dit, mais bien sûr qu'il est cambodgien, bah ouais. Parce que tes traits sont pas. Enfin, je veux dire, si on te dit t'es cambodgien, enfin, si tu dis t'es cambodgien, on te dit oui, bien sûr, il est cambodgien. Mais en fait, c'est vraiment. Le reste,
c'est ton allure générale, en fait.
C'est le packaging de Rafale qui fait que ça nous rend impossible le fait que tu sois.
Je crois que c'est l'allure, c'est mon métier aussi, c'est mon background. Souvent, quand je dois me définir, je dis alors effectivement, je suis français d'origine multiple, je suis d'origine banlieusarde, d'origine provinciale aussi, puisque je suis normand. À la base, je viens d'une cité qui s'appelle Hérouville-Saint-Clair, juste à côté de Caen, cité ouvrière. Donc, je suis d'origine populaire également, et puis d'origine immigrée. Avec mes deux parents cambodgiens, donc c'est vrai que c'est tout de suite c'est assez différent de ce qu'on pourrait imaginer, des clichés qu'on pourrait avoir des Asiatiques en France.
Et justement, en parlant de clichés, on a beaucoup évoqué dans Kif Taras tous les clichés auxquels sont exposées les femmes d'origine asiatique, et c'est vrai que ce sont des clichés en fait un peu inversés qui pèsent sur les hommes. Quand les femmes sont hypersexualisées, les hommes sont sous-sexualisés. Et je voulais savoir en fait si toi, en tant qu'homme asiatique,
mais du coup,
ouais, ou de manière générale, mais du coup, c'est vrai qu'on te perçoit pas forcément comme un asiatique. Mais est-ce que ce sont des clichés que t'as vécu, et quels sont les clichés spécifiques aux hommes asiatiques auxquels t'as pu être exposé?
Alors, moi, de là où j'ai grandi, déjà, on n'était pas beaucoup de gens racisés de couleur. Donc déjà, j'étais différent de fait. Alors moi, j'ai toujours été bien portant, assez costaud, donc ça te met encore, tu sais, en intersectionnalité déjà dans un truc où t'es de couleur et gros, donc le petit gros de couleur. Donc déjà, t'imagines déjà, j'ai coché des cases un peu reloues. Mais bon, après, tu développes un truc. Ah, moi, en plus, j'étais très timide, mais ça, c'est un trait de caractère qui va à tous les gens, enfin, à tout le monde, qui est commun à tout le monde, enfin, qui peut être commun à tout le monde. Et du coup, quand j'étais tout petit, c'était un peu dur, hein. Moi, je me rappelle le truc où je vais faire pleurer les gens. J'ai toujours été très solitaire, petit. Vous avez du mal à le croire, là.
Ah, moi, c'est vrai qu'on a des grands yeux.
Et je vous assure que jusqu'au CM2, j'étais vraiment solo, et je me rappelle de trucs, les souvenirs de ouf. Quand j'étais gamin à la maternelle, quand c'était l'interclasse, la récréation, je la passais tout seul et je faisais le tour de la cour en attendant de rentrer en classe. Je détestais l'école pour ça, parce que j'avais l'impression d'être différent, et je me mettais moi-même en plus dans un truc différent, parce qu'en plus j'ai grandi dans un quartier bourgeois, mais nous on n'était pas vraiment, quoi. La petite enfance a été plus compliquée, et puis après, pardon, on parle de sous-sexualisation et puis d'enfant, rien à voir. Par contre, au collège, comme j'ai développé un truc un peu cool, un peu vanneur, un peu chill, ouais, ça allait.
Là, t'avais la cote.
Ouais, mais j'avais pas la
cote. Tu dis humblement, mais...
Non, pas du tout. Alors, j'avais pas la cote. J'étais souvent le meilleur ami, parce que souvent, en plus, les Asiates un peu gros, on est les meilleurs amis.
Comme dans Spider-Man.
Et c'est ouf, tu sais quoi, je l'ai regardé hier, je me suis dit, mais je le connais, ce gros-là. C'est WAM, en fait. Tu sais, mais sauf que j'étais pas le geek dans le fauteuil, parce que ça, j'étais plutôt nul. Mais j'aurais voulu être Peter Parker, quoi, hein. tu vois, ouais. pour le coup. Mais du coup, je traînais avec les gars rigolos. Moi, j'avais plein d'amis, aussi bien garçons que filles. Et puis, des jolies histoires aussi, quand même.
Donc, comme dans Spider-Man.
Ouais, non, ça allait. Et puis, plus tard, non, j'ai jamais été un grand tombeur et j'ai jamais été, j'ai jamais eu de retour de refus de qu'on sorte avec moi, par exemple, parce que j'étais asiate. Je pense plutôt le physique un peu costaud, gros. Je pense que c'est plus un handicap là pour le coup que ça, que mes yeux plus en amande ou ma couleur de peau. Après, dans mon cas.
Ouais, bien sûr, chacun et chacune vit son expérience. Donc tu l'as évoqué tout à l'heure en intro, tu dis que tes parents ont fui ce qui allait devenir le génocide Khmer. Est-ce que ils t'ont tout raconté? Parce que c'est vrai qu'il y a une spécificité par rapport aux parents qui sont réfugiés politiques, c'est la transmission en fait de la mémoire très douloureuse. Est-ce que ce sont des choses que tu as su dès l'enfance, et quels souvenirs tu as de cette histoire tragique?
Alors rien, mais quand je te dis rien, c'est alors souvent quand j'en parle en plus avec des gens de mon âge, d'origine cambodgienne également, avec des histoires un peu similaires, hein, des parents qui doivent fuir, qui passent en camp de réfugiés, qui arrivent ici et qui sont dispatchés en France. Que ce soit mon père ou ma mère, personne ne nous a rien raconté sur le pourquoi de comment est-ce qu'on était arrivé en France. Je me rappelle que ado, je leur ai demandé, plus petit, mais pourquoi est-ce qu'on est là en fait si on est cambodgien? On dit ah mais c'est parce que on avait une nièce qui faisait un stage de médecine au CHU de Caen. Ah ouais, d'accord, ok. Et c'est plus tard, je pense, l'avoir... et puis, tu disais, oui, et puis c'était la guerre chez nous. Mais jamais sans rentrer dans le détail, sans t'expliquer le pourquoi, du comment. En fait, j'ai découvert, moi, ça dans les livres, moi-même. Puisqu'à l'époque, quand j'étais jeune, moi, j'ai 38 ans aujourd'hui, il n'y avait pas vraiment Internet. Donc, on regardait dans les livres, le dictionnaire, les atlas qui te racontaient. Et puis, quelquefois, il y avait des émissions de télé où on parlait de ce génocide Khmer Rouge. Et là, on se retrouvait devant la télé. Enfin, nous, parce que comme on parlait très peu du Cambodge à l'époque, ou de l'Asie en général à la télévision, dès qu'il y avait un truc sur l'Asie à la télé, c'était la grand-messe, et puis les familles se branchaient, et les limites, on s'appelait pour se dire « Ah, ce soir, il y a un reportage sur le Cambodge, sur telle chaîne. » Sauf que mes parents ne regardaient pas parce que ça leur faisait trop de peine. Ma mère me disait « Ah non, mais je ne peux pas regarder, ça me fait pleurer. » Donc, nous, on regardait, et avec mes frères, on a découvert cette histoire. Mes frères qui sont plus âgés, on a découvert cette histoire à la télévision ou dans les livres, mais pas de vive voix. Il a vraiment fallu les cuisiner un petit peu plus tard, plutôt ma mère, qui a lâché les dossiers, je pense, quand moi, j'étais jeune adulte, qui pourtant elle a une histoire de dingue, ma mère. Elle était hôtesse de l'air à l'époque, et elle était aussi danseuse pour le roi du Cambodge. Elle était hôtesse de l'air, et son père était dirigeant, il avait créé une plantation de caoutchouc. Donc en fait, ils étaient à l'aise, ils étaient humbles là-bas, hein, pour le coup. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, les Khmers Rouges, donc régime très très dur, communiste hardcore, quoi, étaient arrivés et avaient dit, bon, année zéro, on recommence tout. Et dans l'idée, c'était éliminer les intellectuels, les riches, ceux qui avaient de l'argent, sur des critères un peu nuls, du genre on pouvait te tuer parce que t'avais des lunettes. Lunettes veut dire tu lis des bouquins, donc t'as fait des études, donc t'es un intellectuel, donc en fait, il faut killer, quoi. Donc c'était aussi simple que ça. Et ma mère, qui était donc, je redis, puisque je commence à dire n'importe quoi, mais qui était hôtesse de l'air, quand elle s'est rendue compte qu'on fermait les aéroports et les voies aériennes, elle s'est dit, ah, oh là là, là, il y a une galère, il se passe quelque chose. Si on nous met en quarantaine dans le pays, c'est que ce qu'on entend dans l'actualité va arriver, et puis il va y avoir une grosse galère. Ce qui fait que elle a, depuis l'aéroport, mais vraiment à l'arrache, quoi, depuis l'aéroport, elle a dit, bon, toi, tu vas aller chercher ma sœur, toi, tu vas aller chercher notre daron, et il faut qu'on parte, il faut qu'on bouge. Et en fait, ça s'est passé comme ça.
Ils sont venus en quelle année?
C'est en 75.
Ouais, vraiment, donc, juste avant la fermeture des frontières, parce que c'est avril 75.
Exactement, et c'est là où on peut, nous, se considérer notre famille comme chanceuse, c'est que ma mère travaillait à l'aéroport et voyait que les couloirs aériens se fermaient et qu'on allait, en gros, les mettre en prison dans leur propre pays. C'était ça. Elle m'a raconté aussi qu'elle avait donné tous les bijoux qu'elle avait sur elle pour qu'on n'aille, que quelqu'un aille chercher mon père, qui était à l'époque, professeur dans un lycée. pour le rapatrier là où elle était, l'aéroport. Et de là, ils sont partis en Thaïlande, je crois en voiture, pour rejoindre un camp et puis attendre que ça se passe. Et à l'époque, mon grand-père, donc, qui lui était chéri pour le coup, avait dit « Mais non, mais ça va passer, il ne va rien se passer, tout va bien. » Et en fait, il en est mort. Il est resté là-bas, il en est mort. Et puis, c'est comme ça qu'on est arrivé en France et que mes parents, et ça, je le comprendrai par la suite, ont en plus vécu un vrai déclassement puisqu'ils étaient, eux, dans une situation plutôt bourgeoise, en fait, et arrivés en France, on a vécu triptyque HLM, usine, et du coup...
ils avaient vraiment précarité. Cette nièce au CHU de Rouen ?
Ouais, c'est pour ça, de Caen, et c'est pour ça qu'on est arrivé à Caen, en fait.
D'accord.
Ouais. Oui, vraiment.
C'est comme ça qu'on est arrivé à Caen.
C'est elle qui a fait les papiers pour que tes parents puissent être sponsorisés.
Exactement.
Et qu'ils puissent arriver en France avec une garantie que quelqu'un allait pouvoir subvenir à leurs besoins, tout ça.
Totalement.
Et ça m'intéresse quand tu dis que tu as lu dans les livres ce qui est arrivé à ta famille, puisqu'elle n'a pas pu te raconter elle-même ce qu'ils ont vécu, tellement c'était difficile. Mmh. Quel livre, toi, tu as lu sur le génocide Khmer et qu'est-ce que ça. Enfin, si d'autres personnes sont intéressées ou qui veulent surmonter le silence parfois de nos aînés, qui n'est pas un silence. Enfin, moi, j'ai beaucoup voulu à ma famille de ne pas m'avoir raconté, mais c'est qu'en fait, des fois, c'est juste impossible. De raconter, et bon, là, ta mère, elle a réussi à... Enfin, vous l'avez confrontée avec cette histoire-là, ensuite, pour avoir les détails spécifiques à votre famille, à votre parcours, ce qui est... Et des fois, on peut pas faire ça.
En plus, je lui ai mis un vrai coup de pression, c'est-à-dire que... Non, mais je sais pas si c'était aussi ton cas, Grâce, mais moi, quand j'étais plus jeune, moi, je voulais aller découvrir le Cambodge, donc je disais à mes parents, ma mère spécifiquement, ouais, quand est-ce qu'on y va? Et à chaque fois, ils disaient, ouais, bah, l'été prochain, pour les grandes vacances. L'été prochain, ça a duré 2, 3, 4, 5, 10 ans, comme ça, où il y avait toujours une bonne raison pour pas y aller. Pas d'argent, c'est compliqué, ouais, mais là-bas, la sécurité, on n'est pas sûr. Et quand j'ai eu je crois 22 ou 23 ans, et ben j'ai acheté un billet d'avion et j'ai dit à ma mère, bah ça y est, moi j'ai mon billet, j'y vais, je parlais à peu près le Khmer, j'ai dit j'y suis allé, et ce qui est dingue, c'est que j'ai retrouvé de la famille via des lettres qu'on s'était que quelqu'un avait envoyé à une cousine lointaine que j'avais avec une adresse, je sais pas quoi, et en fait j'ai retrouvé de la famille là-bas et je suis resté un mois. Avec là-bas plein de péripéties, des gens qui ne te croient pas quand tu dis que t'es cambodgien parce que j'ai pas le physique. Moi, je parle à peu près le Khmer, je le comprends vraiment parfaitement, mais j'ai un accent, un fort accent, j'ai du mal à trouver le vocabulaire. Bref, je me débrouille et je reste un mois, c'était mortel. Je découvre aussi comment est-ce que le pays essaie de se reconstruire, la jeunesse complètement dynamique qui essaie de faire des choses, le capital culturel qui est juste incroyable, gastronomique, parce qu'on y mange bien aussi, et puis évidemment on aime bien manger, mais aussi les temples d'Angkor, les sept merveilles,
incroyable.
Une des sept merveilles du monde qui est juste à tomber. Et je rentre et je dis à ma mère, mais en fait ça va, il y a de la pauvreté, il y a de la misère, mais je m'attendais à un truc tellement gore comme on en parlait, tu vois, avec des gens estropiés dans la rue partout, de la misère, et en fait le pays est en train de se reconstruire. Bon, j'imagine quand même que le gouvernement en place, qui doit pas être le plus cool du monde en termes de liberté d'expression, de je sais pas quoi, a peut-être un peu essayé de maquiller tout ce qui allait mal pour faire revenir les touristes. Bref, bon, bah ça passe aussi par ça, malheureusement. Et donc, je rentre en France et je me rappelle, je dis à ma mère, bah, en fait, regarde, j'ai retrouvé de la famille, c'est cool. J'étais dans un hôtel plutôt bien. Elle dit, ah bon ? Et elle, dans la semaine, elle s'est elle-même acheté un billet pour partir. Et je crois qu'il fallait un déclic comme ça pour que l'un de nous y aille. Et je ne sais pas si c'est la meilleure solution, en tout cas, c'est ce qui s'est passé.
Génial.
Et pour reprendre ta question, à savoir comment est-ce que moi, je me suis documenté sur tout ça, il y a surtout un film qui me reste en tête, parce que quelquefois, de lire, c'est un peu relou, ou pas très accessible. Il n'y a peut-être pas des livres super cool, sauf peut-être le livre de Grâce, d'ailleurs, où toi, tu racontes aussi tu racontes aussi tes origines. Pour des gens de notre génération, c'est beaucoup plus accessible que de lire un article dans un atlas, parce qu'il y a finalement très peu de choses qui existent. Mais je me rappelle surtout d'un film américain qui s'appelle La Déchirure.
Ouais, de Roland Joffé.
Exactement.
83.
Et qui est dingue, qui est vraiment dingue. C'est l'histoire d'un journaliste qui doit faire une série de reportages, un journaliste américain au Cambodge, sur la guerre au Cambodge, qui la vit de l'intérieur et qui est aidé par un autre journaliste qu'on appelle un fixeur sur place, un journaliste cambodgien. archi touchant. Et puis c'est leur amitié, c'est l'histoire de leur amitié qui est racontée, et puis à travers ça l'histoire du génocide des Khmers rouges. Donc ça c'est super accessible comme
ce film La Déchirure en français, en anglais ça s'appelle The Killing Fields, donc les charniers. Donc c'est, le titre est vraiment différent quand tu le prends en anglais et quand tu le prends en français,
comme souvent.
Ce qui est bien avec Rafal aussi, c'est qu'il revient sur les questions que t'as posées 3 minutes avant.
C'est ça, un vrai journaliste.
Ça c'est chouette parce que t'es pas en train de dire alors les livres, alors les films. Et tu es aussi très impliqué dans les communautés asiatiques. Tu as notamment participé à la vidéo asiatique de France. Enfin, ouais. C'était un clip. Et tu participes souvent, dès que tu viens en soutien à plein de causes.
De mon implication dans, contre le racisme anti-asiat est assez récent, je trouve. Parce que. Très longtemps, cette identité asiatique était un peu en second plan pour moi, et je me sentais plus vraiment banlieusard, avec toutes les discriminations que peuvent subir les banlieusardes et les banlieusards, les habitants de nos cités. En France, je sais pas, discrimination, je pense comme ça naturellement à l'islamophobie, contre les arabes, la négrophobie, toutes les attaques,
violences policières.
Tous les débats autour de la précarité, et je me sentais moi beaucoup plus impliqué là-dedans, et puis alerte sur ces questions que sur des questions de racisme anti-asiatique. C'est venu plus tard avec je sais pas quoi, peut-être un autre âge, le fait que je me sois installé en Île-de-France, puisqu'avant j'habitais à Caen, enfin j'habitais à Hérouville toujours dans ma cité, et puis du coup je voyais des ponts avec ce qui pouvait se passer à Clichy sous bois ou à Montpellier, cité du petit bar, à Toulouse, au Mirail, enfin bref, c'est des choses qui me parlaient plus. Et puis c'est en fait en venant en Île-de-France que j'ai rencontré plus de Français d'origine asiate ou des Asiates, des gens de ma génération en plus, avec un parcours assez similaire au mien, avec même des gens quelquefois qui pouvaient kiffer les cultures urbaines. Donc c'est comme ça que j'ai fait ces liens, et puis on est venu me voir pour cette vidéo, puisqu'on me savait assez impliqué sur toutes les questions d'identité, de discrimination et de racisme. Et c'est comme ça que j'ai participé à la première vidéo avec des gens comme Steve Tran, les comédiens Fred Shaw, etc., etc.
Et c'est intéressant ce que tu dis aussi à la lumière de... Moi, on dit souvent, en tant qu'asiatique, qu'il y a la hiérarchie des racismes. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont plus importantes, et le racisme anti-asiatique fait partie des racismes qui sont le moins médiatisés, qui sont le moins visibles, qui sont moins repris par les journalistes. Et souvent, on me demande, est-ce que tu nourris pas quelque chose à l'égard des personnes qui sont... On parle toujours des mêmes, les Noirs, on parle d'eux tout le temps, les Juifs. Est-ce que toi, ça te fait pas quelque chose? Et en fait, à chaque fois, je me dis, mais le fait qu'on parle des problèmes... d'autres problèmes d'autres gens. En fait, moi, j'ai juste envie que le racisme anti-asiatique prenne autant d'ampleur, et que les personnes qui sont derrière le racisme anti-asiatique, enfin, qui luttent, les associations, etc., elles soient aussi visibles. Mais pour moi, c'est parce qu'on tient à couverture à quelqu'un qu'ensuite, on va sortir... Enfin, c'est pas en poussant la tête de quelqu'un dans l'eau qu'on va se sentir surélevé.
Bah, c'est toujours ça, l'idée, c'est que tu te dis que c'est une très bonne chose qu'on parle de l'antisémitisme, de la négrophobie, de l'islamophobie, mais qu'il faudrait qu'on parle de toutes les formes de racisme de la même manière, donc contre les Roms, contre les Asiatiques. C'est vrai que ce truc de dire « Ah, on en parle trop... » Non, en fait, on parle pas trop du reste, on parle pas assez du racisme anti-asiatique, et tout de suite, c'est une approche quand même différente.
Et justement, je crois que j'en ai déjà parlé ici, mais c'est ce qui m'énerve le plus, c'est quand on fait le rapport entre le racisme anti-asiatique et le racisme anti-blanc, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on me dit « Ah, on parle jamais de vous !» Bah, c'est comme nous, les Blancs, en fait, on parle jamais de nous. Je dis « Non, non !» C'est pas du tout pareil.
Je pense qu'en plus, avec votre émission, on a assez démontré toutes ces histoires de racisme anti-blanc, d'absurdité, justement, sur tout ça. Mais c'est vrai que je pense que le fait que... oh là là, ça va faire auto-centré, je suis désolé, mais que des gens comme toi, Grâce, on peut te voir sur des luttes, justement tu peux dénoncer la négrophobie, comme toi Rokaya tu peux dénoncer l'antisémitisme ou justement discrimination contre les Roms, et que moi on me voit sur des débats ou des polémiques autour de l'islamophobie, je pense justement que ça casse ces barrières là et ça montre aux gens qu'on n'est pas obligé d'être noir pour lutter contre le racisme anti-noir, qu'on n'est pas obligé d'être musulman pour lutter contre l'islamophobie.
C'est des poisons de notre société en général, et on est tous membres de cette société civile.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Comment devenir un ou une meilleure alliée de la lutte antiraciste ? Comment se confronter à ses privilèges en tant que personne blanche ? Chez Binge Audio Édition, on sort « Mécanique du privilège blanc », un livre d'éducation antiraciste pour proposer des outils concrets à toute personne qui souhaite se confronter à ses privilèges. Le livre est signé Estelle Depry, qui anime depuis des années la page Instagram « Semblant de rien », sur laquelle elle produit du contenu antiraciste qui permet à chacun et chacune de devenir un meilleur allié. Vous êtes déjà plus de 2000 à avoir précommandé. Grâce à vous, on a dépassé notre objectif. Il ne vous reste que quelques jours pour commander vous aussi votre exemplaire. Rendez-vous sur Ulule, ulule.com/mécanique-du-privilège-blanc ou sur le compte Instagram de Binge Audio Édition.
Et pour le coup, moi, j'essaye de... Enfin, dans ma tête, c'est clair, les discriminations sont aussi, prennent autant d'importance et sont aussi terribles, insultantes, inadmissibles sur toutes les communautés telles qu'on peut les penser. Pour moi, une lesbienne qui se fait agresser parce qu'elle est lesbienne, c'est aussi grave qu'un juif qui se fait agresser parce qu'il est juif, quoi.
C'est ce qui est important aussi, je trouve que c'est quelque chose qui te caractérise, c'est le fait que bah, t'as toujours été de toutes les luttes, quoi, et depuis longtemps, t'as toujours voulu soutenir des gens de toutes origines, et c'est peut-être aussi ça qui contribue à l'ambiguïté dont tu parlais au début de l'émission.
Mais
tu
sais,
mais il est quoi, lui ? Qu'est-ce qu'il fait ?
Je parle d'islamophobie, j'ai un mec avec qui j'ai grandi chez moi à Hérouville, qui s'appelle Kader, il est et que j'ai un peu perdu de vue parce que je vis à Paris maintenant. Je vis à Montreuil plus précisément, dans le 93, mais il est persuadé que je suis converti à l'islam. Et à chaque fois que je le vois, c'est... On parle, on discute, la famille, ça va. Et il me dit, et alors, tu peux me le dire maintenant? Tu peux me le dire. T'es un frère, t'es converti. J'ai dit, mais non frérot, je t'assure que non. Et bref, ça dure depuis 10 ans comme ça.
C'est drôle. Et ben, en fait, je t'ai jamais dit, mais ma mère, elle s'appelle Yem. Ma mère, ça se trouve, on est cousins.
Mais c'est vrai.
Le nom de notre film de ma mère, c'est Yem.
C'est dingue.
Tu sais, on en a jamais parlé.
Je t'assure, c'est dingue.
Et donc, j'ai un cousin qui a le même physique que toi, dans le sens, il est chauve et il a une barbe depuis, il a une trentaine d'années. Et quand on va en Asie, les mecs, les Kazakhs, les Ouzbeks qui sont en vacances, genre en Asie, ils lui tapent dans le dos en disant frérot, ça fait du bien de te voir et tout. Et...
Mais moi, c'est la même. Là, j'étais en Égypte, là, et c'est pareil. Il s'avère que je ne savais pas, mais l'Égypte, c'est une destination préférée des Ukrainiens, des gens du bloc russe, là, l'Estonie, la Lettonie, tout ça. Et il s'avère que tu as des gens qui sont Ouzbeks et tout. Et c'est pareil. Ils sont persuadés que je suis l'un des leurs. Aussi, tu
c'est
vois.
Marrant parce que tu vois quand tu changes de zone géographique, du coup tes repères historiques changent. C'est-à-dire que en France, quand tu penses à des pays arabes, tu penses au Maroc, l'Algérie, pas les pays mais les populations, parce que c'est l'histoire des ex-colonies de la France.
Bien sûr.
Mais quand tu te déplaces en Asie centrale, enfin vers les personnes qui sont de confession musulmane, c'est d'autres références pour eux. Et voilà.
Et même pour nous, ça bouge. On se dit mais qu'est-ce qu'il raconte ? C'est bizarre.
Alors, tu l'as dit à l'instant, hein, tu es originaire d'Hérouville-Saint-Clair, dans la banlieue de Caen. Tu te définis comme ayant fait HEC, les hautes études du culot. Tu es un self-made man, un peu à l'américaine, autodidacte, qui n'est pas passé par les écoles de journalisme. Non. Et tu dis souvent, que, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, que tu n'as pas de carte de presse et que les écoles ne t'étaient pas accessibles en tant que banlieusard provincial et surtout issu d'un milieu modeste. Comment t'as abordé justement cette ambition de devenir journaliste ?
Moi, c'est ce que j'ai toujours cru, en fait. C'est ça ma vraie galère, c'est que personne m'a informé du fait qu'il existait des bourses pour prétendre aller étudier dans une école de journalisme. Sinon, j'aurais peut-être pris cette voie. Et puis, j'ai eu pas mal de désillusions sur ce métier plus jeune, parce que moi j'ai lancé un fanzine, on en parlait au début de l'émission, qui s'appelle Fumigène, qui est au départ, c'était, quand je dis un fanzine, en fait c'était un magazine photocopié, donc des pages A3 pliées en deux, qu'on photocopiait la nuit à la MJC, et on faisait ça le dimanche à la bibliothèque. Et ce qui est drôle, et je raconte souvent cette histoire et ça fait rire souvent les gens, mais on piquait les ramettes de papier pour faire ça, quoi. Et comme des copains ou des copines faisaient du foot le dimanche, ou de la danse, ou je sais pas quoi, bah, mon hobby et celui de quelques autres potes, c'était de faire du média, de créer ce journal, et puis ensuite de l'imaginer. On a appris tous les métiers comme ça, hein. Journaliste, maquettiste, éditeur, éditrice, et puis après, celles et ceux qui le fabriquaient, et puis après, il fallait le vendre, parler de ce journal. Bref, vraiment, j'ai appris sur le tas tout ça. Ce qui est drôle, c'est qu'à la base, tu ne sais pas ce que c'est un rédacteur en chef ou une rédactrice en chef. Donc, tu fais le métier en disant, bon, il faut coordonner comme ci, comme ça. Et tu apprends un peu plus tard, quand tu fais des recherches sur ce que tu as envie de faire, que ça a un vrai nom, ce métier. Donc, ça, c'est assez rigolo. Et puis, donc, on a fait ça. J'ai amené cette pratique-là aussi dans mon collège. Enfin, je dis une bêtise, pardon. C'est au collège, en fait, que j'ai attrapé le virus en 6e. J'ai participé au journal du collège.
De quel virus tu parles? Parce que dans...
Du virus. Ah,
parce que moi, je en train de se dire, mais ça s'en va à la fin.
Je ne porte pas de masque pour parler du virus du journalisme. Non, j'ai participé au journal du collège. Et c'est là où je me suis dit, ah putain, j'aimerais trop faire ça, quoi. C'est trop bien de faire un journal. Donc, c'est devenu un hobby par la suite. J'ai amené cette pratique au lycée, où on a sorti un journal qui a gagné le prix académique de la presse. À l'époque, j'ai lancé une radio aussi dans ce lycée. J'ai fait mon stage de troisième dans un lycée, dans une radio associative qui était nichée là-bas, TSF 98. Je les embrasse s'ils tombent sur ce podcast. C'était la Tour Rose d'Hérouville-Saint-Clair. C'était vraiment la plus grande tour. C'est l'équivalent de notre Tour Eiffel, quoi. C'est la Tour Rose, mais c'est à l'intérieur les appartements les plus pourris que t'as jamais vu de ta life. Et la radio se trouvait tout en haut, au dernier étage. Je sais pas, au moins au 30e. Et là-bas, c'était vraiment le repère des grands. Qui venaient se bourrer la gueule, quoi. Tu vois, fumer des joints, tout ça.
D'accord.
Donc, quand t'es en troisième, tu montes, tu sais, t'es un peu fragile, quoi. T'es fébrile quand tu montes, tu prends l'ascenseur et ton émission, c'est la nuit. Donc, mais voilà, du coup, moi, je me suis éclaté à apprendre comme ça, sur le tas, vraiment dans les conditions de bénévole. Et puis, je me rappelle quand j'ai eu 18 ans, je me suis dit, bon, je vais en faire mon métier. Le journal là-bas de la presse quotidienne régionale, c'est Ouest France. Je connaissais le correspondant Ouest France. J'ai écrit une lettre, une candidature spontanée. Je suis envoyé. Et puis, une semaine, pas de réponse. Un mois, pas de réponse. Je tombe sur le gars. Je lui dis, ouais, est-ce que tu as entendu parler de ma lettre? Voilà, moi, j'adorais être journaliste. Et puis, comme je connais bien Hérouville, je pourrais en parler. Je connais bien les associations, je connais bien les gens et tout. Il m'a dit, mais Rafale, c'est pas sérieux. T'as pas le profil pour le faire? Ben non. Et là, je vous assure, ça a pas duré longtemps. Je suis tombé de haut en disant, mais qu'un mec qui est comme moi, qui est correspond, enfin, qui est comme moi parce qu'il devait avoir 10 ans de plus que moi et lui-même, il est d'origine antillaise, donc noir, tu vois. Et puis, il connaissait un peu la cité. Et en fait, je sais pas, il m'a fait sentir que j'étais pas comme lui, quoi. Que j'étais pas...
Parce que lui, il a fait une école de journalisme,
bon,
et tout,
sûrement,
tu penses ?
Ouais. Sûrement. Et puis, ça a été mon premier truc. Et là, je me suis dit, bon, écoute, si lui, qui est un mec proche de moi, me dit ça, j'ai 18 ans, je suis à Hérouville-Saint-Clair, je suis en bas de ma tour, le gars me dit ça, je dis, c'est niqué pour moi. J'y arriverai jamais, quoi. Et quand je dis que ça a duré 10 minutes, ça a vraiment duré 10 minutes, dans le sens où... Bah, je me suis dit, bah tant pis, je vais m'éclater en faisant mon journal qui s'appelle Fumigène, et puis ça va marcher. Et puis il s'avère que ça a vraiment marché,
oui.
Parce que ce journal, donc, on a vraiment fait à la sueur, on l'a fait avec rien, on l'a fait avec du papier carotte, pour le coup. et puis, en fait, il a grossi, comme moi, d'ailleurs au fil des années, mais ce journal, on l'a distribué, il est passé de Hérouville, de ma ville, à ma région, la Normandie, et puis il a commencé à voyager du côté du sud de la France, en banlieue parisienne, et puis s'il y a des très jeunes qui nous écoutent, ils ont du mal à le croire, mais quand j'avais 20 piges, il y avait pas internet, tu pouvais pas taper dans Google les adresses, il y avait pas Instagram, il y avait pas tout ça, on pouvait pas joindre les gens aussi facilement. Donc il y avait l'annuaire, donc un gros bouquin où il y avait des numéros de téléphone, tu cherchais, et nous à l'époque dans Fumigène, on voulait interviewer les stars du rap parce que c'est ce qu'on écoutait et tout ça. Donc on cherchait les maisons de disques dans les pages jaunes de Paris. Et puis on trouvait et on envoyait notre journal comme ça. On ne savait pas à qui, mais on l'envoyait. Et puis un jour, il y a un gars pour qui j'ai du coup aujourd'hui un éternel respect, amitié et tout ce que tu veux. C'est vraiment mon frère. Je suis d'ailleurs le parrain de son fils maintenant. Fawzi Meneri, à l'époque attaché de presse chez Hostile Records. Hostile, ils ont à l'époque, dans cette maison de disques en tout cas, chez, ils ont IAM. Et lui m'appelle un jour pour me dire « Ah ouais, dis donc, j'ai reçu votre journal là, c'est pas mal. Bon, on peut faire mieux, mais venez à Paris et puis ce sera l'occasion pour vous d'interviewer IAM. Oh, » mais t'imagines, IAM c'était déjà aussi lourd que ce que c'est aujourd'hui, quoi, ouais, tu vois, c'était déjà légendaire. Ouais. Donc première fois qu'on va à Paris, on prend le train pour y aller, on se retrouve dans un hôtel, première fois qu'on arrive dans le lobby d'un hôtel. Aujourd'hui, moi, c'est mon quotidien, enfin, parce que j'étais sur MTV, parce que j'ai fait pas mal d'interviews dans les hôtels, et il faut le dire aux gens, ça se passe souvent dans les hôtels. Maintenant, il y a moins d'argent, donc ça se passe directement dans les maisons de disques ou dans les cafés, mais à l'époque, c'était quand même le face des maisons de disques. On arrive dans un hôtel comme ça, un truc 5 étoiles, les gars d'IAM, c'est la garde à l'époque, c'est Joe Star, je dis n'importe quoi, c'est les copains d'NTM, mais c'est Shuriken et son frère Faflarage qui rentrent les premiers parce qu'ils avaient sorti un projet qui s'appelle La Garde. Ah là, je parle aux anciens, hein, attention. Hein. Je les vois et tu te dis, ah, c'est génial. T'as l'impression d'avoir réussi en fait. Mm. J'avais l'impression d'avoir réussi ma vie.
C'est génial, hein.
On pose les premières questions et tout, et ce Fawzi en fait qui est là, on se lie d'amitié avec lui. Et il me dit, écoute, moi, en fait, j'ai compris qu'il s'était retrouvé dans mon parcours parce que lui-même, il était arrivé à être un des meilleurs attachés de presse dans son label et que lui-même avait grandi en banlieue et que lui-même, on lui avait pas dit qu'on pourrait devenir attaché ou travailler dans l'entertainment, tu vois. Et il était arrivé là et puis il s'était un peu retrouvé dans ce que je faisais. Il aimait mon dynamisme, mon positivisme. Et du coup, il m'a dit, bah, écoute, si tu veux en faire ton métier, je vais te brancher avec d'autres rédacteurs en chef que je connais. Et j'ai commencé à écrire comme ça pour un magazine qui s'appelle RER, qui était à l'époque une des références sur le rap et la rap culture. Et j'ai fait des pitchs comme ça pendant 6 mois, depuis Hérouville-Saint-Clair. Bon, je vous raconte pas les galères parce que l'argent de mes pitchs rentrait pour payer mes billets de train. Bref, je gagnais rien, mais je kiffais le faire. Et surtout, ensuite, aller à Carrefour de chez moi, ouvrir le magazine dans le truc de la presse et dire putain, il y a mon nom, quoi. Ouais. C'est mortel. Et puis, je suis devenu rédacteur en chef adjoint de ce journal au bout de 6 mois.
Bravo.
Et c'est comme ça que ça a commencé.
Et bon, là, c'est un podcast où on ne parle pas beaucoup, hein, Rokhaya.
Ouais, c'est clair.
Ah, oh, pardon.
Mais... c'est génial.
Mais c'est super.
Mais nous, on te laisse
c'est super.
Dérouler,
on est bien.
Parfait.
On est bien. On le laisse et il est wouhou. Il fait le truc tout seul. Il n'a pas
bien,
lu le conducteur.
T'as
mais
à toutes les questions.
Mais c'est ça. En fait, c'est voilà.
Super bien.
Et dans les portraits de tes débuts, du coup, qu'on lit vachement sur la toile, on te retrouve vraiment associé à cette culture de rue, le hip-hop, l'urbain, voilà. Et je voulais te poser cette question parce que moi, quand j'ai grandi, j'ai grandi en banlieue parisienne, j'avais vraiment cette impression que les blancs écoutaient du rock et les noirs écoutaient du rap. Et du coup, parfois, je me demandais, moi, qu'est-ce que j'écoute comme musique parce qu'il n'y a personne. Et toi, j'ai vu que tu écoutais les deux. Donc, tu n'as pas du tout été atteint par ces clichés là.
Non, non, non. Est-ce que c'est parce que. Alors, j'allais dire, est-ce que c'est parce que j'ai grandi en province? Non, pas du tout. Parce que je pense que les banlieues, nos cités se ressemblent partout sur le territoire français. Donc on a vraiment cette histoire en commun. Mais non, c'était une époque où on pouvait aussi bien être grunge avec des chemises à carreaux, des baskets, et puis, écouter...
T'as eu ça ?
Ouais, j'ai eu ça, moi.
Oh, regarde les scoops qu'on a.
J'ai eu des bûcherons et tout. Et puis
t'avais des docks aussi ?
Non, j'en ai pas eu, c'était trop cher. Trop cher. trop cher. Les gens qui avaient des docks, c'était les churis chez nous. Hein.
Bah, partout. Hein.
et puis t'écoutais aussi bien Nirvana que MC Solar, quoi, à l'époque. Donc, mais pour le coup, je me sentais plus d'affinité avec l'histoire de cette culture, le truc de la débrouille, et puisque ça pouvait aussi porter comme message militant, aujourd'hui on dirait d'empowerment, de comment est-ce que ça pouvait mener une communauté de destin pour essayer de lui sortir la tête de l'eau. Je me retrouvais dans les paroles, je me retrouvais dans ces ambiances.
Tu sais que dans certains endroits, comme par exemple aux États-Unis, on dit que les Cambodgiens, c'est les Noirs de l'Asie.
Ouais, mais moi, j'allais dire, je suis persuadé de ça. Je le vois quand je suis au soleil, je te dis, je noircis beaucoup. Mais ouais, si c'est dans l'imaginaire du genre, on serait les Afro-Américains L'équivalent des Afro-Américains en Asie, ouais, sûrement, ouais, peut-être, je sais pas.
En tout cas, c'est une super transition Afro-Américain, puisque je pense qu'on peut parler d'une aventure commune qu'on a eue dans une chaîne qui s'appelle BET.
Eh ouais.
Donc, qui est une chaîne historiquement noire, donc BET, ça signifie Black Entertainment Television, ouais. Une chaîne qui appartient au groupe Viacom, voilà, donc au sein duquel tu avais commencé, ouais. Avec MTV.
Exactement. Alors, ils sont venus me chercher à l'époque, MTV est venu me chercher, ouais. Il y a 8 ou 9 ans maintenant, et c'est la première fois qu'une chaîne de télévision, plus iconique pour le coup, venait me chercher. Ouais. D'habitude, je levais mon téléphone, j'envoyais des mails, je harcelais les dirigeants pour leur proposer 100 projets, pour qu'on m'en refuse 100, mais qu'au final, on me disait, ouais, tiens, tellement tu m'as fait chier, je vais te donner une petite chronique quelque part. Donc, c'est la première fois, et j'étais tellement fier de ça, qu'on venait, qu'on levait son téléphone pour dire, on aimerait beaucoup que vous travailliez pour nous et que vous incarniez quelque chose chez nous.
Et du coup, alors sur BET, avant qu'on parle de ce que tu y as fait, ouais. Ça a commencé très mal.
Ah ouais.
Bon, je pense qu'on peut revenir sur ce sujet. C'était hyper chaud parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc BET a été créé par la même entité en fait qu'il y avait, ouais. MTV déjà en France, et les animateurs qui ont été sollicités, animateurs, animatrices, donc qui ont été sollicités, ouais. pour lancer la chaîne, c'était Edia Charny et toi.
Ouais.
Et donc moi, je me souviens très bien que t'as posté la photo du lancement de BET, une photo de Edia et toi, ouais. Sur ta page Facebook pour dire ah super, BET arrive en France. Et moi, je me souviens, j'étais dans un avion, j'ai vu la photo, je t'ai félicité. Et dans ma tête, je me suis dit, ah, peut-être qu'il y a des gens qui vont mal réagir.
Ouais.
Et quand j'ai atterri, c'était le feu en France. C'est-à-dire que, bah, il se trouve que.
Il a suffi d'un voyage, tu sais, juste le temps du voyage en avion, du vol, elle a atterri, elle a
ouvert. Les notifications Twitter.
Ok, et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, ni Edia, ni toi n'êtes noir, alors, ouais. que c'est une chaîne historiquement noire, et donc ça a été une polémique incroyable. Est-ce que tu peux nous en parler de comment tu l'as vécu et quelles ont été les réactions ?
BET aussi, comme MTV pour moi, chaîne iconique, donc fierté totale, quand on me dit, oh, est-ce que tu veux y aller ? Tu veux aussi incarner la chaîne ? J'ai dit oui tout de suite, parce que effectivement, il y a l'histoire des noirs, l'histoire du hip-hop aussi, qui est vraiment, pour le coup... lié à BET et erreur de notre part, alors pourtant je suis déjà engagé, hein, dans toutes les luttes sur les identités en France, de ne pas voir que certaines allaient prendre mal, le voir comme une offense, voir comme d'infériorisation ou de discrimination. Pourquoi est-ce que cette chaîne, historiquement lancée par des Noirs, aussi pour un public noir aux États-Unis, on n'a pas calqué ce schéma, cette image en France ? Et effectivement, on s'en rend compte tous, hein, tous les gens qui sont autour de la table et qui lancent la chaîne, on s'en rend compte au lancement. On se dit, mais c'est pas possible, en fait. Je me dis, mais à pas un moment, il y a un noir ou une... Alors qu'en fait, le noir, j'allais dire le noir, il est aux commandes de la,
ouais,
chaîne.
Ouais.
Il s'appelle Roswell, il est directeur des programmes, mais lui, on le voit pas, évidemment. Et même lui, au départ, au lancement de la chaîne, ne voit pas le problème. Et c'est quand on voit le shitstorm qui se passe, on se dit, putain, mais comment on n'a pas pu penser à incarner la chaîne, quoi, par un noir, une noire ou plusieurs, alors qu'il y en a des gens qui pourraient prétendre à être là où on est, mais il y en a 20 000, quoi. Tu vois, c'est comme ça aussi d'ailleurs que Rokhaya arrive.
Bah en fait, ce qui est marrant, c'est que moi je me souviens, donc j'étais en déplacement et Raphaël m'a envoyé un message en me disant, ah, est-ce que tu connaîtrais des journalistes qui pourraient couvrir des choses sur les États-Unis,
ouais, ouais.
pour BET. Je lui dis, ah, bah moi je veux bien en fait, parce que j'y vais souvent, etc. etc. Et c'est suite à ça que les personnes qui s'occupaient de l'antenne se sont dit, ah, bah si elle considère pour le fait de faire des reportages aux États-Unis, pourquoi pas venir sur l'antenne en France, ouais. Et du coup, je me suis retrouvée un petit peu en mode, je sais pas comment on appelle, enfin, un peu pour d'une certaine manière répondre à cette polémique.
Ouais.
Et donc, je suis venue avec vous et Edia pour le lancement de la chaîne. Mais c'est vrai que j'étais venue post-polémique. Et moi, je t'avoue que je me suis dit que c'était en fait d'autant plus dommageable que dans un contexte où les Noirs sont très très peu visibles, de lancer une chaîne qui s'appelle Black sans Noir, c'était vraiment. C'était pas possible en fait, c'était complètement inaudible dans un contexte où en fait on voyait des noirs nulle part. Et donc moi je suis arrivée, mais aussi pas. Enfin, il y a des gens qui ont bien accueilli mon arrivée, mais moi j'ai vu aussi des réactions un petit peu mitigées, genre bah, elle est pas légitime, qu'est-ce qu'elle y connaît en musique, enfin, alors que j'étais pas du tout venue faire de la musique.
Bien sûr.
Mais ça n'a pas forcément été évident pour moi, et aussi de venir en ayant le sentiment. tu sais, un peu d'être la noire qui vient colorier un truc qui n'allait pas à la base.
Ouais.
Quoi, tu vois.
Ouais, totalement. Dans le sens où, moi, je pense... les gens qui ont lancé la chaîne étaient plutôt sincères.
Ouais.
Je pense que c'était dans le délire de la culture noire liant... en fait... C'est là aussi on peut pas faire des transpositions totales
bien
et
sûr.
Que on sent bien aussi que on a des gènes sur toutes ces sur tous ces sujets, des choses qui sont pas réglées ou des choses qui sont pas encore claires pour toutes et tous. C'est de se dire que Black Entertainment Television, ça voulait dire la chaîne de la street culture,
ouais.
En fait.
Ouais.
Et c'est comme ça que personne n'y a vu un problème de mettre Edia Charny ou Rafa Liem comme incarnant. Les premiers incarnants de cette chaîne. D'autant que si vous avez suivi en plus cette polémique ou si vous la découvrez et que vous pouvez aller chercher les historiques, c'est que beaucoup, beaucoup de gens de la communauté noire en France ont pris ma défense,
ouais.
Mais pas celle d'Edia.
Aïe.
Pourquoi ? Parce
je croyais que t'étais noir.
Mais non,
alors, il est réunionnais.
Il y a des gens qui ont cru déjà en plus, mais surtout, comme je m'étais moi-même, avant tout ça, beaucoup engagé. Contre la négrophobie, contre les attaques en banlieue, enfin sur les habitants et les habitantes des quartiers populaires. Et que j'avais vraiment cette image, et j'espère l'avoir toujours, de mecs qui luttent pour l'égalité réelle. Et ben j'ai été épargné de tout ça. Même si, attention, hein, j'ai pris plein de trucs, des amis proches même qui m'ont reproché d'être sur BET. Mais la plupart des gens qui comptaient, aussi bien des vrais leaders d'opinion, des artistes, des militants de terrain, ont pris ma défense. Mais ils ont été plus réservés sur celui d'Edia, parce qu'Edia est plus connue comme une journaliste entertainment people que quelqu'un qui peut aller manifester ou se lever aussi sur les commémorations du 10 mai, quoi. Donc voilà, je pense que pour elle ça a été un plus mauvais souvenir que pour moi.
Bah ça a été très dur, hein. Je
ça
sais
a
que ça a
très,
été très
très dur.
Hein.
On l'embrasse d'ailleurs, Edia, si elle tombe sur ce podcast.
Il y a eu des insultes, il y a eu des menaces, il y a eu aussi des trucs racistes.
Il y a eu des menaces, il y a eu des trucs racistes, il y a eu des trucs, sexistes,
hein. Voilà,
et tout
donc,
ce que tu veux. Quoi.
Donc ouais. Voilà, c'est-à-dire que je comprends la colère qui était tout à fait légitime, mais c'est vrai que s'en prendre aux individus au lieu de réfléchir à un système qui fait que on arrive là, voilà. Et bon, finalement, t'es resté sur BET.
Finalement, je suis resté longtemps.
On a fait plusieurs saisons d'émissions ensemble.
Je crois que je suis resté 3 ans. Je suis resté 3 ans, ça a été ma décision de partir.
Exactement.
On ne m'a pas demandé de partir.
Non, t'es parti.
J'avais l'impression que 3 ans, ça allait.
Ouais.
Et puis j'étais rédacteur en chef aussi de nos émissions.
Absolument.
Tu vois, et puis je cumulais, j'avais là aussi la casquette de Red Chef et d'animateur sur MTV. Et je commençais aussi à faire pas mal de choses pour France Télévisions. Et puis,
Il a fallu choisir. Quoi,
exactement. Ou... Enfin, c'est que quand tu peux plus, tu peux plus. Et surtout, tu as beaucoup de gens talentueux qui arrivaient sur l'antenne. Balou était là. Anaïs B aussi était là. Donc ça leur a laissé plus de place et puis je vois qu'aujourd'hui la chaîne continue.
Ça, on a vu passer Tony Life, Flora
exactement,
Coquerel, ouais.
Totalement, et puis ils font bien le job, donc bravo à eux, quoi.
Et aujourd'hui t'es sur France 3 et sur France O. Et
coup, je vais même te dire la vérité, ma sœur, c'est que ce matin avant de venir chez vous, j'étais au salon de l'agriculture. T'imagines, il y a une bande-annonce nationale qui passe avec aujourd'hui France 3 est au salon de l'agriculture toute la semaine, présentée par Vincent Fergnaud et Rafa Liem. On est d'accord, ça veut rien dire. C'est-à-dire que à un moment, et je me dis, c'est aussi là que je dois être, parce que le combat pour la représentation, pour la diversité,
mais
aussi,
justement,
elle est là.
Je me demandais, est-ce que le fait que maintenant tu sois sur France 3 et sur France O et que tu t'abordes des thématiques généralistes, parce que le salon d'agriculture, c'est pas étiqueté banlieue ou pas étiqueté diversité, est-ce que tu penses être sorti de cette case, enfin,
non, alors
que tu as aimé, enfin, sans vouloir.
Alors non, moi, en plus, je suis pas du tout péjoratif sur cette case, parce que j'ai longtemps, en tant que professionnel comme de médias, milité pour plus de diversité à l'écran, mais aussi derrière l'écran. C'est pour ça que quand je sais que Rosswell était directeur des programmes de BET, moi j'étais très fier de ça aussi, parce que c'était un poste à responsabilité. Et que donc moi je pars du principe qu'il faut qu'on soit représenté aussi bien de façon sociale que de façon de couleur aussi, devant et derrière, pour que ça fasse bouger les choses. Je suis très content d'aller le faire. Je suis pas sorti de cette case. Elle est en moi. Je pense même que il y a peut-être pas un effort, mais même pas une stratégie, mais c'est dans la pensée des gens qui m'ont mis au salon de l'agriculture. de dire ah bah aussi il va représenter quelque chose. Et ouais, effectivement, je représente des gens qui me regardent à la télévision parce qu'ils peuvent se retrouver dans l'image de ce que j'en vois, mais aussi dans les valeurs que je peux porter, dans le parcours aussi que je peux avoir. Donc je suis très content d'y être et tous les matins, je suis dans une émission qui s'appelle Ensemble c'est mieux, je crois que ça me va plutôt bien, où je me balade aux quatre coins de l'Île-de-France à la rencontre des gens autour de leurs initiatives positives et citoyennes. Je fais ça et puis je suis sur Flash Talk sur François où voilà. On fait un grand débat sur des questions de société et où je prends un malin plaisir à donner la parole au micro des gens du public à des gens qu'on voit pas beaucoup à l'antenne, des vieux, des jeunes, des femmes voilées, des mamans noires, etc., etc.
Moi j'ai une dernière question parce qu'on est pressé par le temps parce que Raphaël
il parle trop.
Non, il parle bien.
Il est super intéressant, mais c'est vrai qu'on n'a pas besoin de le relancer. Est-ce qu'on t'a déjà reproché dans ton journalisme de manquer d'objectivité parce que tu es militant et que tu as des engagements?
Oui.
Et comment tu le prends, toi, du coup?
Moi, je pars du principe que, de toute façon, un journaliste n'est jamais objectif. Il affine, il porte ce qu'il pense être sa propre objectivité, mais c'est son parcours, c'est ce qu'il a vécu, c'est ce qui le fait vibrer, qui lui donne ça. Donc, j'ai l'impression que dans notre métier, on est tous subjectifs. Et cette subjectivité devient une sorte d'objectivité. Donc, ouais, je suis assez objectif dans le sens où comme je le disais à l'instant, je veux donner la parole aux gens qui n'ont pas l'habitude de prendre la parole.
Et tu le fais très bien, Raphaël, hein, merci beaucoup. Là, c'est nous qui t'avons donné la parole avec grand plaisir.
Ah, c'est moi, je kiffe.
Tu reviens quand tu veux. Ouais, bah, nous aussi. Tu reviens quand tu veux. C'était vraiment chouette. On est contente de pouvoir dire qu'on te retrouve de manière quotidienne sur France 3.
Ouais.
Dans Ensemble, c'est mieux. Et aussi régulièrement, dans Flash Talk.
Et tous les dimanches, Flash Talk, 19h sur France 3, jusqu'à ce que la chaîne meure, puisque c'est annoncé.
Bah oui, parce qu'il ne faut pas déconner, quoi.
Mais là, on milite en ce moment pour que l'émission arrive sur une autre chaîne du groupe France Télévisions.
On croise les doigts pour ça. C'est la fin donc de Kif Taras dédié
depuis le studio Soria Bonali.
C'est absolument. Ça exactement, c'est le vrai nom du studio. On est dans une configuration intimiste, hein, on va dire ça comme
ça. Les canapes. Et aujourd'hui le podcast Kif Taras de Binge Audio est réalisé par Mathieu Thévenon. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Kif Taras. Merci Raphaël.
Merci Raphaël. Salut Grâce.